Complète RTL Info 18h avec Thomas Debergueil.
Le meurtre d'une jeune femme à Liège le 3 janvier dernier a profondément ému le pays. Alam, 28 ans, a été retrouvé ligoté, une balle en pleine tête. La sœur de la jeune femme a très vite désigné son frère comme pouvant être l'auteur du crime. Il vivait à l'étranger, mais s'était installé depuis plusieurs mois chez sa sœur et ne supportait pas son mode de vie, entre guillemets, à l'occidental. La sœur d'Alam, Fadia, a choisi de témoigner, Céline Oursard.
On n'a rien demandé à personne. On vit notre vie tranquille. On n'a rien demandé à personne. Pourquoi ils font ça? Mon frère.
Fadia en est persuadée. C'est l'un de ses frères qui a tué leur petite sœur Alam. Il y a 7 ans, Alam a quitté la Syrie pour venir vivre en Belgique. La jeune femme de 28 ans travaillait dans un bar du centre-ville de Liège. Elle avait un petit ami, un mode de vie à l'occidental, ce qui ne plaisait pas à deux des frères de la fratrie.
Pour ça, elle a tué, et maintenant, ils sont fiers, parce qu'elle est fière, elle a tué. Comme ça, les gens, ils parlent plus maintenant. Mon autre frère est d'accord avec lui. Il sourit, il dit, elle est morte maintenant, on peut sortir dehors et... On marche la tête. Oh.
Alam et Fadia ont grandi dans une famille chrétienne de Syrie. Le frère suspecté vit en Suède. Il était en Belgique depuis 3 mois, au moment de la mort d'Alam. Depuis, Fadia affirme qu'il est retourné en Syrie, chez leurs parents. Elle a eu sa mère au téléphone.
Et ma mère, elle m'a parlé tout doucement, elle avait peur. Il était au salle de bain. Ma mère, elle a dit, parlez vite, vite. Et après, on a accroché vite parce qu'elle est chez elle. Ce qu'elle veut pas, ma mère, qu'elle sera en contact avec moi.
Aujourd'hui, Fadia craint pour la sécurité de ses parents.
Il a dit à ma mère, si elle te pleure, tu vas suivre ta fille. Il a dit à ma mère, ne pleure pas. Pourquoi tu pleures? Elle est morte. On est content. Mais même ça, il a dit à ma mère. Ma mère, elle peut même pas pleurer pour sa fille.
Fadia habite en Belgique depuis 20 ans. Elle a quitté la Syrie après un mariage forcé. Son frère l'a elle-même menacée à plusieurs reprises.
Mais moi, je n'ose pas sortir de la maison. Même, je vois une voiture devant la maison, je suis paniquée, j'ai peur, je vois un truc qui passe. Je panique tout le temps, je ne dors plus la nuit, je ne dors plus.
Fadia veut avant tout que la justice soit rendue.
Ma soeur, j'ai promis à ma soeur, elle ne partira pas pour rien du tout. Ils vont payer pour elle.
Voilà pour ce témoignage raconté par Céline Gransard. Merci Céline. Plusieurs invités pour aller plus loin ce soir. Diane Bernard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à l'Université Saint-Louis-Bruxelles et membre de l'ASBL Femenlo. Merci d'être avec nous. André Jacob est également avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, je vous présente déjà, mais on ira plus loin dans quelques minutes avec vous sur la protection policière pour les proches de victimes. C'est notamment le cas de Fadia. André Jacob, vous êtes ancien commissaire divisionnaire de la Sûreté de l'État, ancien responsable du service antiterrorisme de la Sûreté. Merci de suivre ce débat. Je vous retrouve dans un petit instant. Diane Bernard, d'abord, l'expression crime d'honneur, vous l'avez entendu, ça a heurté une de nos auditrices. Elle me fait froid dans le dos, moi aussi, parce qu'elle implique qu'il y a une explication, qu'il y a une raison au crime. Est-ce la bonne expression?
Écoutez, non, pour moi, vraiment, l'utilisation du terme crime d'honneur n'est pas du tout adéquate. Pourquoi? D'abord, d'un point de vue strictement juridique, le crime d'honneur, ce n'est pas une infraction en droit belge, pas plus que le féminicide, d'ailleurs, même si ces deux notions sont très souvent utilisées dans le débat public et même dans certains plans d'action politique, ce dont, en un sens, on peut se réjouir. Mais bref, juridiquement, il peut y avoir meurtre, il peut y avoir assassinat, éventuellement des circonstances aggravantes, mais parler de féminicide ou de crime d'honneur, ça n'a pas de signification en droit. Par ailleurs, et Noura Hamer de Laoussa l'a rappelé tout récemment, il n'y a pas d'honneur en jeu. Le crime n'honore certainement personne. En outre, troisièmement, on peut ajouter que l'expression crime d'honneur peut paraître raciste à certains égards. Ilse Heuterspross s'est dramatique et tuée en août dernier par son compagnon. On parle de féminicide. Alam Younan est tué là peut-être par son frère. Enfin, il semblerait, on n'en sait encore rien. On parle de crime d'honneur. Et puis surtout, et là je rejoins tout à fait votre auditrice, parler de crime d'honneur, ça invisibilise la dimension sexiste de ces actes. C'est-à-dire que ces actes odieux, ils sont subis par des femmes, ils sont commis par des hommes. Et dans tous les cas, il s'agit, me semble-t-il, au nom de certaines valeurs prétendues ou au nom d'un ordre prétendument établi, il s'est imposé une domination sur les femmes, une domination sur leur corps, sur leur choix de vie, etc. Et donc, en ce sens, il me semble que l'assassin Dilks, tout comme l'assassin Alam, sont en fait coupables d'un crime d'honneur, au sens où ce sont des hommes qui viennent acter une façon de voir les choses, une forme d'ordre, une position subterne que devait et que n'occupait plus ou que n'occupait pas une femme à leur égard. Bref, ils ont puni le fait qu'une femme ait décidé de vivre autrement que eux, en tant qu'homme proche de ces femmes, voyaient les choses.
Mmh. Nous avons également Thierry Femme avec nous, qui est chef du service de psychologie légale à Lumons. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, la palette des violences liées à ce qu'on appelle le crime d'honneur, et on a compris que l'expression n'était pas la meilleure, la palette est assez grande. Ça commence parfois à la simple violence psychologique. Hein.
Oui, tout à fait. Donc, on parle souvent ici de crime d'honneur, parce qu'évidemment, on parle ici des cas extrêmes, et notamment de meurtre. Mais la palette, en tout cas, des violences interpersonnelles... peuvent évidemment recouvrir en tout cas le domaine émotionnel, les relations et puis les passages à l'acte de violence aussi graves que celui-ci. Oui.
Diane Bernard, l'auteur est souvent un proche. Est-ce qu'on peut dire que toute la famille, dans ces cas-là ou dans la plupart des cas, soutient cette personne dans son action la plupart du temps?
Oui.
Diane Bernard, alors.
Oui, d'accord.
Excusez-moi, vous avez dit mon nom, mais je vous en prie. Je pense que votre autre invité sera plus
à même. Vous voulez réagir, Thierry Femme?
Non, je laisse Diane Bernard réagir.
Bon, Diane Bernard, c'est à vous.
Trop de politesse sur la politesse. Non, je disais, on vient d'avoir l'exemple avec la sœur de Salmoudane. Je pense qu'on ne peut certainement pas associer l'ensemble des membres d'une famille à l'acte d'un individu. Il peut parfois y avoir des complices, c'est vrai. Je doute fortement que la plupart des femmes proches, des femmes victimes de ce type de comportement cautionnent ce qui est posé là comme acte.
Mmh. La motivation est toujours la même, il s'agit de laver l'honneur de la famille. La notion d'honneur, Thierry Femme, c'est ça qui fait mal en l'occurrence ici. Hein.
Bon, oui, c'est ce qui fait mal, mais comme la collègue le soulignait, évidemment le terme d'honneur est un terme bien mal placé, parce qu'on peut quand même se poser la question de savoir au fond en quoi est-ce que l'honneur personnel de l'auteur a été sali, hein, de par le comportement de sa sœur. C'est quand même pas son honneur personnel à lui qui a été remis en question. Mais la justification du passage à l'acte par la justification d'un système de valeurs, évidemment, semble évidemment hautement très problématique. Simplement, évidemment, cette notion d'honneur va peut-être servir l'auteur à pouvoir se justifier et en tout cas rationaliser les motivations qui, de toute façon, au départ, sont des motivations complètement infondées.
Mmh. Religieuse ?
Oui, peut-être voire religieuse, ou en tout cas sous-entendue par un système de valeurs, sans doute fermé sur lui-même. Je pense qu'on dira jamais assez que vivre dans une société occidentale ne signifie pas nécessairement qu'on y est adapté, oui. Et qu'au fond, on peut vivre aussi dans une société occidentale qui prône l'émancipation et en être, et être hostile, en tout cas, avec le système de valeurs partagées. Par cette société, oui.
Vous restez avec nous, on vous retrouve dans un petit instant, on marque une courte pause sur Bel RTL et les auditeurs peuvent réagir au 33-23.
Peugeot présente le salon juste pour vous.
Imaginez, des nouveautés juste pour vous, des conseils en showroom ou en ligne juste pour vous. Car le salon de Luc qui rêve de découvrir le nouveau iXpert 100% électrique n'est pas celui de Léa qui veut commander le i2008, ni celui de Thierry qui a craqué pour le nouveau 3008 plug-in hybride et son Mobility Pack de 3000 euros d'avantage, en plus des conditions salon.
Découvrez le salon Peugeot virtuel sur Peugeot.be ou rendez-vous dans votre point de vente pour profiter dès maintenant de nos conditions salon, ouvert aussi les dimanches. Offre soumise à condition.
Vos commerçants indépendants sont aussi sur la toile. Découvrez-les près de chez vous tout en vous amusant. Participez aux jeux de concours Virtual Shopping Days. Du 13 au 18 janvier, recherchez le logo Virtual Shopping Days dans les vitrines numériques de vos commerçants et gagnez de nombreux bons d'achat à travers toute la Wallonie. Rendez-vous sur www.virtualshoppingdays.be, une autre manière de soutenir nos commerçants indépendants. Une initiative du SNI, syndicat neutre pour indépendants, avec le soutien de la région Wallonne.
Les entrepreneurs qui veulent aller vite choisissent le meilleur. Alors allons droit au but. Internet, 400 mégabits par seconde, ultra rapide, dans tous les packs. Vous, business, faites passer votre business à la vitesse supérieure. Plus d'infos sur vousbusiness.be.
C'est dingue, avec de la patate, tu peux faire des frites, de la purée, des pommes au four. Ouais. Et avec du riz, tu peux faire...
Du riz.
Ah ouais. Les promos XXL, plein de promos où il faut pas trop réfléchir.
Super.
Cette semaine, 10 kilos de pommes de terre pour 4,99€.
Oula.
Plein de patates pour pas cher.
Ah bah oui.
Lidl, pour ceux qui comptent.
Italiani, italiani, chi siamo davvero?
Grazie all'Italia!
Ont inventé Ferrari, offert au monde le spaghetti, c'est le pays des tifosi et tutti quanti. Toute cette semaine, dès 9h, qui sera le plus grand fan de l'Italie? Tentez de gagner un voyage de rêve d'une semaine pour deux personnes à la Fattoria Lavacchio, sublime domaine près de Florence. Pour participer, envoyez fan au 6679.
Cette année, Opel amène le salon de l'auto dans votre salon. Choisissez vous-même vos conditions salon sur opel.be ou sur rendez-vous chez votre concessionnaire Opel.
RTL Info, c'est votre actu.
Les auditeurs réagissent ce soir à notre débat. Ils estiment que la cohabitation entre différentes cultures est parfois très difficile, voire impossible, et menace la sécurité des concitoyens. Plusieurs messages vont dans ce sens ce soir. Nos invités, Diane Bernard, professeur à Saint-Louis, membre de l'ASBL Femmes en Law, et Thierry Femme, chef du service de psychologie légale à Lumons. Diane Bernard, au fond, un crime d'honneur. Bon, on va plus utiliser l'expression, on va trouver autre chose, mais comment repérer des comportements, je dirais, déviants, des comportements dangereux ou qui pourraient le devenir? Comment les détecter? C'est pas simple, ça non plus.
Non, certainement, et je suppose que votre troisième invité répondra mieux que moi à ces questions. Il me semble que dans ces cas-ci, tout comme dans les cas de violence envers les femmes en général, et en espérant que peu d'entre eux, voire plus aucun d'entre eux, n'aille jusqu'au plus sanglant, jusqu'au féminicide, la clé, c'est l'attention à la parole des femmes, l'attention à la parole des victimes. Et donc, c'est prendre au sérieux les dépôts de plainte, c'est y donner suite, c'est protéger les femmes, qui en expriment le besoin, c'est soutenir la demande de protection. Et donc, évidemment, la prévention, c'est une clé. Et la prévention ne peut pas passer sans une attention renforcée à la parole, à la voix des personnes concernées.
Oui, et selon les Nations Unies, le foyer reste l'endroit le plus dangereux pour les femmes. Il y a plusieurs pays encore qui gardent dans leur loi ces circonstances atténuantes quand un crime est commis dans ce cadre. Je pense à la Jordanie, la Syrie, évidemment, le Koweït ou encore l'Égypte. Là aussi, il faut agir vite.
Oui, bien entendu, il y a aussi d'autres États qui paraissent quand même marquer maintenant certaines évolutions à cet égard. Bien entendu, je pense cependant qu'en tant qu'État, donc en Belgique, on a beaucoup de travail à faire par rapport à ça. Bon, les déclarations politiques sont nombreuses, les actions se multiplient également, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail. Mmh. Et donc je pense que nous aussi, ici, dans la diversité culturelle qui caractérise heureusement notre société, on a beaucoup de travail à faire pour prendre au sérieux ce que les femmes ont à dire des violences qu'elles subissent encore trop souvent. On le sait, dans le cas des féminicides, il est extrêmement rare que l'acte final et dramatique n'ait pas été précédé d'autres violences, jugées moindres peut-être, qui font l'objet de plaintes, qui parfois sont retirées, puisque justement, mais quand les violences ont lieu dans le foyer ou dans le cadre familial, c'est toujours délicat, c'est toujours difficile pour les victimes, tout comme pour les tiers d'intervenir ou de s'exprimer.
Oui. Thierry Femme, pour éviter justement ces passages à l'acte ou des situations parfois bien plus graves qu'une violence psychologique, qui est déjà très grave, mais pour éviter que ça aille plus loin, est-ce qu'il faut pouvoir dénoncer son voisin, un proche? Il faut arriver à oser le faire, c'est pas simple, hein.
Non, il faut arriver à en parler suffisamment et mettre en place en tout cas des systèmes d'alerte, parce que c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec ce que la collègue disait, les décédents de violences extrêmes, notamment de violences homicidaires, sont en général précédés en tout cas d'actes de violence sur autrui. J'ai envie de dire que dans cette perspective-là, la question de la menace, notamment la menace de mort qui semble exister dans ces situations-ci, les menaces de mort sur autrui sont évidemment à prendre d'autant plus au sérieux que, je dirais, personne soit à des antécédents, à des tendances antisociales, à des tendances impulsives et ou à une certaine capacité, en tout cas, à manier les armes. Les armes constituent, en tout cas, une source de danger supplémentaire potentiel, parce qu'on a affaire à des individus qui vivent dans ce contexte et qui, en tout cas, s'y prêtent facilement. En tout cas, il y a quand même des éléments de contexte de situation dans lequel on sait que les menaces de mort répétées avec la présence d'armes, avec en tout cas des processus de déshumanisation extrême exprimés vis-à-vis des autres, sont quand même des signaux d'alerte qu'il faut évidemment prendre au sérieux.
Et on a compris que la pression psychologique ici était très forte. Vous l'avez entendu dans le sujet de Céline Gransard, le frère en question exerce une véritable pression et même des menaces à l'encontre de sa propre mère. Donc ça peut aller bien sûr très très loin. Merci beaucoup Diane Bernard, merci Thierry Femme d'avoir participé.